Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Main Vous Fasse. Et ce matin, Grand Main Vous Fasse s'engage pour la santé cardiaque des femmes. Pendant longtemps, les femmes furent relativement préservées des grandes pathologies cardiaques qui touchaient surtout les hommes, ou alors elles étaient mal diagnostiquées, comme c'est le cas avec l'infarctus du myocarde, car les signes peuvent différer. Pour diverses raisons, les femmes sont de plus en plus atteintes par l'hypertension, l'insuffisance cardiaque ou encore les accidents vasculaires cérébraux. Nous verrons ce matin comment soigner et mieux prévenir grâce aux traitements médicamenteux, à la nutrition, à l'activité physique, à la gestion du stress ou encore à l'arrêt du tabac. Avec l'association Agir pour le cœur des femmes, nous attendons toutes vos questions au 01 45 24 7000 et sur l'appli France Inter. N'hésitez pas à témoigner et à raconter les pathologies cardiovasculaires dont vous souffrez. Bonjour Baptiste Beaulieu.
Bonjour Ali.
Notre médecin et romancier en duplex de Toulouse, au menu de votre chronique vers 11h-20.
On va parler de dons, réciprocité et couscous.
À tout à l'heure. Bienvenue dans Grand Main Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rebéi, Grand Bien Vous Fasse.
Moi, une femme, 55 ans, je ne pensais pas que non, je puisse être candidat à l'infarctus. Mais je ne pensais pas de toute façon que ça pouvait m'arriver. Je ne pensais pas. Je réalisais pas que c'était possible. Voilà, qu'on était à une phase aiguë où il y a même ma vie même était en question, quoi.
Extrait de l'émission Le Monde en Face sur France 5 en avril 2021. Bonjour professeur Claire Mounier-Veillé.
Bonjour Ali.
Vous êtes cardiologue à l'Institut Cœur-Poumon du CHU de Lille, cofondatrice de l'association Agir pour le cœur des femmes. Vous avez publié chez Marabout Mon combat pour le cœur des femmes et vous êtes l'initiatrice du bus du cœur qui sillonne la France avec un mantra: sauver 10 000 vies de femmes d'ici 5 ans.
Tout à fait. Donc c'est une... Le bus du cœur des femmes a démarré en septembre 2021. Je l'ai cofondé avec Thierry Drillon, qui est dirigeant d'entreprise. Donc c'est vraiment une alliance médicale et sociétale pour alerter sur cette urgence. Vous l'avez dit en introduction, 200 femmes par jour décèdent de maladies cardio-cérébrovasculaires. C'est la population de Cannes par an, 76 000 femmes par an. Donc il y a vraiment matière à aller dans les territoires à la rencontre de ces femmes.
Bonjour docteur Emmanuel Berthelot.
Bonjour Ali.
Vous êtes cardiologue, médecin hospitalier et vous publiez aux éditions du Rocher 3000 milliards de battements, les secrets de notre cœur, et vous êtes secrétaire du groupe Insuffisance cardiaque et cardiomyopathie à la Fédération française de cardiologie. Bonjour Isabelle Delalleu.
Bonjour.
Vous êtes de formation scientifique, vous êtes journaliste santé, forme et nutrition et vous publiez chez Solar « J'entretiens et je protège mon cœur ». Alors professeur Mounier-Veillé, on l'oublie, mais la première cause de mortalité chez les femmes, eh bien, ce sont les maladies cardiovasculaires devant le cancer.
Tout à fait, c'est 200 femmes par jour, je l'ai dit dans l'introduction. C'est 6 fois plus que le cancer du sein, mais je n'aime pas opposer les deux maladies.
Bien sûr.
Puisque les femmes qui ont eu un cancer du sein, avec notamment une radiothérapie, une chimiothérapie et sein gauche surtout, sont plus victimes, elles aussi, d'infarctus du myocarde ou d'insuffisance cardiaque. Donc ce sont des populations de femmes qui sont aussi laissées pour compte. Donc c'est une urgence, mais on peut agir, puisque dans 8 cas sur 10, on peut éviter le premier accident.
Docteur Emmanuel Berthelot, pourquoi on oublie ce fait? Les maladies cardiovasculaires, c'est la première cause de mortalité chez les femmes.
Alors, c'est un fait aujourd'hui. Il se trouve que les modes de vie ont changé depuis quelques décennies. Avant, les femmes travaillaient moins, avaient peut-être moins de stress, étaient moins fumeuses et elles prenaient moins de contraception. Aujourd'hui, en 2022, une femme effectivement est soumise au même type de stress qu'un homme. Et il se trouve, et on le sait, que les femmes sont au moins aussi sensibles, voire plus sensibles que les hommes aux facteurs de risque dont on va reparler, le tabagisme en particulier, le stress, le diabète, l'hypertension. Donc elles sont vraiment sensibles au niveau du cœur et du système cardiovasculaire. Et en fait, il y a donc ce phénomène, donc ce changement sociétal. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, à la fois les femmes, comme vous l'avez montré dans le témoignage, en fait, cette femme ne pensait pas qu'elle pouvait être sujette à faire un infarctus. Donc il y a un problème d'éducation à la fois de la population. Et je vous remercie de faire cette émission aujourd'hui, puisqu'en fait, il faut que les gens soient sensibilisés à cette, à ce fait, à ces chiffres, hein, qui parlent d'eux-mêmes. Et puis, il faut aussi que les professionnels de santé, mais ça, il y a eu des études qui ont été faites, hein, en fait, maintenant, on sait, nous, on regarde les chiffres, on regarde les études de santé publique, et on s'aperçoit que, effectivement, aujourd'hui, c'est un chiffre. Les maladies cardiovasculaires sont la première cause de décès.
Et pour vous, professeur Mounier-Veillé, ce n'est pas une fatalité.
Oui.
Et vous vous définissez d'ailleurs comme une pitbull de la prévention cardiovasculaire chez les femmes.
Hein. Tout à fait. En fait, on doit absolument proposer à ces femmes, les informer, comme tu l'as dit, Emmanuel, les informer aux trois phases clés de leur vie hormonale. Hein. C'est l'émission du fonds de dotation Agir pour le cœur des femmes, alerter le grand public, les professionnels de santé, la population, anticiper en formant ces professionnels de santé, mais également en formant ces femmes à s'auto-dépister, si je peux m'exprimer ainsi, notamment avec l'auto-mesure, et puis agir au travers d'actions comme le bus du cœur des femmes.
Qui sillonne la France. Racontez-nous l'objectif de ce bus.
Alors, ce bus a pour objectif de s'inscrire dans un territoire de santé, c'est très important, de travailler avec en moyenne 45 à 50 professionnels de santé libéraux et hospitaliers, donc de décloisonner les pratiques professionnelles, en s'associant également avec les services sociaux des mairies, et de proposer un dépistage en 7 étapes. Donc, on a pris comme cible initiale les femmes en situation de vulnérabilité, avec le partenariat avec la Caisse nationale d'assurance maladie et les CPAM, donc en région, dans chaque ville. Et donc, l'objectif, c'est de se proposer à ces femmes un repérage cardiovasculaire, mesure de pression artérielle, métabolique, avec notamment également un prélèvement biologique capillaire, lipidique, glycémie, et puis également un entretien gynécologique, parce qu'environ 7 femmes sur 10 en vulnérabilité n'ont plus de suivi gynécologique. Et donc, il y a un entretien préalable dans le bus, puis une synthèse médicale, puis la remise d'un appareil d'automesure qui leur est offert, grâce à un partenariat avec AXA Prévention Santé, et une formation à l'automesure.
Votre regard de journaliste spécialisée, Isabelle Delalleux.
Pendant pas mal d'années, je trouve que dans la presse, on disait simplement que les maladies cardiovasculaires, c'était les hommes et les femmes après la ménopause. C'est-à-dire qu'on répétait, et je pense beaucoup d'articles aussi, que jusqu'à la ménopause, les femmes étaient protégées par leurs hormones.
Et non.
Et en fait, non. Mais il a fallu finalement l'arrivée de Claire, hein, qui a informé, qui a été une très bonne communicante et qui a très vite su capter le milieu journalistique pour qu'on commence vraiment à lire, je trouve, dans la presse et dans la presse féminine, qui pour le coup est la cible idéale, que non, les femmes faisaient des problèmes cardiovasculaires bien avant 50 ans ou 55, surtout quand elles étaient fumeuses, quand elles avaient une contraception qui n'était pas adaptée, quand elles avaient un rythme de vie qui ne collait pas vraiment, on va dire, avec une démarche de prévention. Et là-dessus, enfin, il y a eu un travail, c'est monté en fait d'un coup, où tout d'un coup, on a commencé vraiment à en parler un peu partout, parce que Claire, tu as su communiquer et capter les journalistes, en parler, t'impliquer, et que cette volonté et cet enthousiasme étaient très communicatifs.
Et je peux en témoigner, professeur Mounier-Veillé, vous m'avez entre guillemets harcelé, notamment sur le réseau LinkedIn, et vous avez eu raison, parce que vous êtes une vraie pitbull, voilà.
Mais c'est grâce à vous aussi, j'ai envie de dire, c'est une chaîne vertueuse de prévention, j'appelle ça les colibris de la prévention, et c'est vrai que les médias, les journalistes ont été des colibris.
Docteur Emmanuel Berthelot.
Alors, on a qu'un cœur, on n'a qu'une vie. Et moi, j'ai appelé mon livre 3 milliards de battements parce que, en fait, c'est quand on naît, à la naissance, on est programmé pour avoir, en quelque sorte, la nature a fait que notre cœur peut battre 3 milliards de fois.
Pas
c'est
plus.
Assez magique. Non, ça peut être plus, mais on va dire qu'en moyenne, c'est ça, c'est à peu près 80, 85 ans, c'est la durée de vie à la naissance. Et en fait, c'est très important de prendre soin de son cœur et d'avoir des choses dès l'enfance, dès l'adolescence, dès les premières années d'adulte, pour prendre soin de son cœur. Il y a plusieurs...
Et c'est une bonne transition, docteur Berthelot, parce qu'avant de s'intéresser à la santé cardiaque des femmes, petit zoom pédagogique sur cet organe une fois et demi plus gros que le poing et qui pèse environ 300 grammes. C'est grâce à cet organe vital que nos organes et nos cellules reçoivent le sang chargé en oxygène et en nutriments. Le cœur travaille 24 heures sur 24, il pompe environ 5 litres de sang, c'est ça Isabelle Delalleux,
oui.
Je dis pas de bêtises, c'est un muscle situé au cœur de notre poitrine et non pas à gauche, hein, contrairement à une idée reçue.
C'est ça.
Il est...
Oui.
Au milieu, gauche, hein. Enfin, au milieu, vers la gauche.
Oui, voilà, vers la gauche.
Il y a des malformations, il n'est pas droit.
Pas quand on le dessine complètement sur le côté.
Oui, exactement. Absolument. Alors, comment est composé le cœur, docteur Emmanuel Berthelot?
Alors, le cœur, c'est un muscle qui est contient deux parties. Une partie gauche qui est connectée au système de circulation systémique, hein, donc qui va distribuer l'oxygène et les nutriments à l'ensemble des organes qui pour alimenter donc toutes les choses qu'on a besoin de faire dans la vie, réfléchir, digérer, marcher, bouger. Et puis, on a une partie droite qui est en fait celle qui récupère le sang veineux qui entre par entre guillemets sali ou qui comporte en fait surtout le gaz carbonique qui a été rejeté par les organes après l'énergie dépensée pendant leur activité et qui finalement va aller récupérer dans le poumon de l'oxygène pour à nouveau être réinjecté dans la circulation systémique. Donc c'est une pompe, c'est une double pompe qui est vraiment séparée en deux avec deux systèmes circulatoires distincts et donc c'est un muscle et c'est un muscle qui est doué d'un système électrique et qui est connecté au système nerveux autonome. Et c'est très important de savoir ça parce qu'en fait, aujourd'hui, on est dans une société très stressée. En fait, on a beaucoup de stress qu'on a du mal à gérer. On pourra y revenir peut-être avec des petites choses justement pour aider à la fois les femmes et aussi les hommes pour gérer tous ces stress. Et en fait, le système nerveux autonome est directement connecté au cœur et va parfois être donc un peu mis sous tension et il faut essayer de lutter contre tout ça.
Et Isabelle Delalleux, pour le cœur, il s'agit d'un énorme travail musculaire.
Oui, absolument.
Qui peut fatiguer le cœur.
Bah, je pense que plus un cœur est entraîné au sport, par exemple, plus il va être performant, plus il va être efficace. Et c'est vraiment ce qui va le protéger, en fait. C'est-à-dire qu'on l'entraîne.
Professeur Mouilleveillé.
J'ai envie de dire, on a une situation, nous les femmes particulières, c'est la grossesse, où c'est un véritable marathon nuit et jour pendant 8 à 9 mois, où là, il mouline 10 litres de sang par minute. Donc deux fois la quantité habituelle. Donc en fait, les femmes, on est vraiment soumises à des contraintes hémodynamiques. Les femmes qui ont 5, 8, 10, 15 enfants, bah souvent ces femmes-là, on les voit arriver, nous, au stade de l'insuffisance cardiaque, parce que leur cœur, il a beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé.
À propos de travail cardiaque, d'où vient le bruit des battements du cœur, docteur Emmanuel Berthelot? C'est le bruit des valves cardiaques, c'est ça?
Oui, tout à fait. Donc, on a quatre valves qui sont des sortes de clapets anti-retour qui permettent au sang de circuler dans un seul sens, hein, dans le sens de la circulation. Quand le sang frotte sur une paroi de valve un peu épaissie ou quand il y a une fuite pour l'une de ces valves, eh bien, en fait, ça fait un bruit anormal. On a deux bruits normaux, hein, qui sont un petit peu le poum-tac, on dirait, on va un peu schématiser, qu'on peut d'ailleurs entendre un peu. Si on colle l'oreille sur la poitrine de son ou sa chérie, on peut écouter, on entend deux sons très distincts qui sont tout à fait réguliers, qui battent environ donc à 80, on va dire à peu près 80 battements par minute, ou entre 50 et 90. Et on peut avoir ces bruits anormaux, entre guillemets,
par exemple,
quand on...
Quel bruit anormal?
C'est justement quand il y a des valves qui dysfonctionnent. Donc normalement, par exemple, quand il y a quand il y a une fuite au niveau d'une des valves, notamment le plus classique, c'est la fuite de la valve mitrale, ou alors le rétrécissement aortique, donc une valve aortique qui est calcifiée, qui rétrécisse, qui arrive plutôt à des âges un peu plus avancés et qui vont en fait faire des souffles parce qu'il y a un frein au niveau de l'éjection du sang, par exemple. Et un autre cas où on peut avoir des souffles au niveau du cœur, c'est quand on a les parois du cœur épaissies, notamment dans les cardiomyopathies, il peut y avoir des souffles un petit peu anormaux. Et effectivement, avoir un souffle quand on est enfant, ça peut être normal, parce que les parois du cœur sont très fines et on peut entendre un petit souffle, donc c'est assez fréquent. Mais par contre, quand on est adulte et que le souffle reste, c'est important de consulter pour savoir de quoi il s'agit exactement, est-ce que c'est pas une maladie.
On continue à faire de la pédagogie. Qu'est-ce que la fréquence cardiaque et pourquoi est-il important de la mesurer?
Alors la fréquence cardiaque, donc c'est le nombre de battements par minute.
Le rythme normal, c'est entre 50 et 85 battements par minute au repos, c'est ça?
C'est ça, oui. En fait, le rythme, le cœur est programmé pour battre donc grâce au sinus, enfin au nœud sinusal, hein, donc cette petite partie du cœur qui est en fait un pulse, une impulsion, c'est assez magique d'ailleurs de penser à ça, hein, ce circuit conductif intracardiaque qui est programmé pour battre entre 50 et entre 50 et 85 battements par minute, donc toute la vie, pendant toute la vie. Et donc, c'est important d'avoir une fréquence cardiaque pas trop élevée. Donc, la fréquence cardiaque, c'est un facteur de risque. On s'est aperçu de ça. En fait, quand on a une fréquence cardiaque est trop élevée au repos, eh bien, en fait, je dirais que ça peut-être ça fatigue un peu le cœur de façon un peu plus... Voilà. Donc, c'est important d'essayer de travailler pour ralentir sa fréquence cardiaque. Et comment on ralentit sa fréquence cardiaque? Bah, principalement en faisant de l'exercice régulièrement. Je pense qu'on va en reparler largement. Et puis aussi en faisant des exercices de respiration pour calmer le système nerveux sympathique. Ou, enfin, il y a d'autres façons de se relaxer. Mais en gros, c'est finalement faire de la relaxation et s'extraire de tous les stress de la vie quotidienne.
Isabelle Delalleau, rappelez-nous quels sont les principaux ennemis du cœur?
Pour la femme, je pense qu'aujourd'hui, on va dire d'abord le tabac.
Pourquoi?
Bah parce que le tabac provoque des spasmes des artères et les femmes ont déjà des artères plus fragiles que les hommes.
Elles sont plus fragiles que celles des hommes, professeur Mounier-Veillet?
Ah oui, elles sont très plus très, très sensibles, plus fines, mais très vulnérables, très sensibles aux facteurs de risque classiques, dont le tabac. Et les femmes peuvent déchirer plus facilement aussi leur coronaire, ce qu'on appelle la dissection coronaire, qui fait la poupée russe. À cause de justement le tabac provoque un stress et plus le stress mental, ça peut provoquer effectivement un effet de déchirement ou même d'ulcération de plaques quand elles ont des petites plaques de cholestérol.
Autre ennemi du cœur, l'âge.
L'âge, mais il y a aussi la sédentarité, l'hérédité. Ouais, on oublie quand même l'hérédité, c'est 20% du risque. Mais quand même, quand une femme appelle le 15 en disant qu'elle a une douleur, qu'elle se sent pas bien, qu'elle est essoufflée, les urgentistes, les régulateurs du SAMU pose la question, avez-vous une hérédité cardiaque dans la famille?
Comme si
la
dame l'insuffisance répond, cardiaque, l'arythmie...
Oui, ou la mort subite, ouais. l'infarctus. Chez le papa ou la maman. Là, ça les incite à envoyer plus rapidement le camion.
Alors, bonne nouvelle, on peut agir même en cas d'antécédents familiaux. Hein. C'est
tout à fait,
le message
bien sûr.
À relayer ce matin. Parmi les autres ennemis du cœur, bah, y a le surpoids également. Hein.
Donc il y a vous disiez finalement il y a 6 facteurs de risque modifiables. Je pense que c'est important que chacun ait une idée sur ces 6 facteurs puisqu'en fait c'est sur lesquels on va pouvoir agir parce que malheureusement l'âge et l'hérédité on peut pas trop agir, il faut faire avec. Et donc les 6 facteurs de risque modifiables c'est donc le tabac comme vous disiez, le cholestérol, le diabète, l'hypertension, le diabète, le type 2, l'hypertension, le surpoids et l'obésité et la sédentarité. Et on parlait de l'obésité. Alors en fait, finalement, aujourd'hui, je pense que les choses importantes à voir, parce que ce sont des choses très prévalentes, c'est la prévalence de l'obésité qui augmente, et notamment suite au confinement, à la sédentarité, au fait que finalement les enfants, et je remercie Claire d'avoir fait tous ces spots publicitaires il y a quelques années sur la santé cardiaque des enfants pour inciter les parents à faire bouger leurs enfants et éviter de rester stagné devant un écran, ce qui augmente en fait l'obésité des enfants, puis après des adultes. Et en fait, donc l'obésité, malheureusement, c'est un facteur d'inflammation. C'est vraiment un facteur d'inflammation important. Et c'est pour ça que ça crée des dommages sur le système cardiovasculaire.
Vous parlez du cholestérol. De quel cholestérol parlez-vous? Alors, on parle du mauvais cholestérol.
Le cholestérol, finalement, historiquement, on a beaucoup parlé du cholestérol. Il y a eu beaucoup de polémiques sur le cholestérol. Effectivement, donc on parle du mauvais, voilà, le mauvais cholestérol, le LDL cholestérol, qui s'est dépisté avec une prise de sang. Aujourd'hui, j'ai plus envie de mettre l'accent sur l'obésité et le diabète, qui sont en fait les deux facteurs de risque qu'on voit vraiment augmenter énormément, puisqu'en fait, il y a une modification de l'alimentation, avec notamment beaucoup de sucre dans l'alimentation.
Et puis, la crise sanitaire a joué un rôle très délétère pour le cœur des femmes, professeur Mounier. Vous parlez même de cocktail explosif.
Oui, cocktail explosif. Alors, je compléterai les propos d'Emmanuel en disant que l'hypertension est aussi un facteur de risque. Les femmes sont sous-dépistées, sous-traitées. Et demain, c'est la journée mondiale de l'hypertension, donc je ne peux pas ne pas en parler. Mais également, j'ai envie de rajouter les facteurs de risque gynéco-obstétricaux, puisque c'est une émission sur les femmes, avec la contraception avec oestrogène, les grossesses, parce que maintenant, les femmes, tu l'as dit, sont exposées à des facteurs de risque très précocement, et la formation du placenta se fait pas bien, donc elles ont de l'hypertension, du diabète pendant la grossesse, et la dernière, donc la ménopause précoce avant 45 ans, je pense que c'est important de le souligner, endométriose, syndrome des ovaires polykystiques, ça fait partie des facteurs de risque qui sont devenus des accélérateurs de ces facteurs de risque classiques.
Et sur la crise sanitaire ?
Et la crise sanitaire, ben, ces femmes, effectivement, que je vois quasiment plus que des femmes aujourd'hui en consultation, 8 femmes pour 2 hommes en moyenne, elles vous disent, je suis plus stressée, je dors pas bien, je suis en télétravail, donc j'ai pris du poids, je grignote, je mange salé, je fume plus, puisque je suis chez moi, donc je peux fumer tranquillement. Et donc, on va travailler ça en consultation, j'appelle ça, moi, les S du cœur, les S rouges. Donc, effectivement, les femmes, plus cette charge mentale qu'elles ont eue à gérer à la fois les enfants à la maison, travailler parfois dans des conditions dans la chambre, assises. Donc, c'est tout ce qui... Donc, elles ont pris en moyenne entre 5 et 10 kilos. Et donc, plus d'hypertension, plus de diabète, plus d'obésité, comme tu l'as très bien dit.
Et dans quelques instants, on s'intéresse aux signes particuliers de l'infarctus du myocarde chez la femme. Ce sera juste après avoir écouté Blondie à 10h27. Interprété One Way or Another.
Grand bien vous fasse, Ali Rebbi, sur France Inter.
Et ce matin, mobilisation générale pour protéger le cœur des femmes, la santé cardiovasculaire au féminin à tous les âges de la vie. Le standard vous est ouvert au 01 45 24 7000 et sur l'appli France Inter. Alors je rappelle que les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité chez les femmes, des pathologies cardiaques qui tuent environ 7 fois plus que le cancer du sein. Pourquoi les femmes sont-elles moins protégées qu'elles ne le croient ? On a longtemps cru que leurs hormones les protégeaient, professeur Mounier-Veillé.
On l'a longtemps cru, mais ça fait partie des préjugés. L'exposition à une hygiène de vie délétère va contrecarrer finalement cet effet protecteur des œstrogènes naturels, qui sont censés avoir, ces œstrogènes, une action relaxante des artères, lutter contre la formation de petits caillots sanguins, anti-inflammatoire, agir également sur le bon cholestérol, sur le métabolisme des glucides. Mais c'est vrai que cette hygiène de vie va finalement venir freiner cet effet protecteur des œstrogènes.
Alors on l'a dit, les artères féminines sont plus fines que celles des hommes et cela aggrave certains facteurs de risque, on l'a dit. Alors à la ménopause, ces artères se rigidifient et s'épaississent plus vite. Oui. C'est ça, avec comme conséquence plus de risque de souffrir de caillots sanguins après 40-50 ans.
À partir de 40-45 ans, déjà, on évolue sur le mode « je fabrique plus facilement des caillots sanguins ». Ça, c'est le premier point. Ensuite, 3-4 ans avant l'arrêt des règles, ce qu'on appelle la préménopause, on commence à se transformer en petite pomme. Donc, si on fait pas assez d'activité physique et qu'on réduit pas notre ration calorique, parce qu'en fait, on consomme moins les calories qu'on mange. Donc, il faut soit bouger plus, soit manger moins. Et donc, on stocke au niveau du ventre. Et ça, ça va faire le lit, finalement, d'artères un peu plus rigides. Et puis, 5 ans après l'arrêt des règles, quand il n'y a plus du tout d'œstrogène et en l'absence de traitement hormonal substitutif de la ménopause, eh bien, l'endothélium, effectivement, n'est plus capable de donner des signaux pour que l'artère reste souple et l'artère s'épaissit progressivement. Ce d'autant que cette femme sera donc dans cet environnement, comme tu l'as dit, Emmanuel, d'insulinorésistance, d'obésité abdominale, d'inflammation. Donc, l'artère devient plus rigide et plus épaisse.
Docteur Emmanuel Berthelot, on a parlé de la ménopause. Un autre moment important, c'est la contraception. Il faut faire très attention à ce moment-là de la vie des femmes. Expliquez-nous pourquoi.
Oui, il y a trois moments, hein, comme l'a dit Claire tout à l'heure. Hein. Il y a un premier moment qui est le moment où on peut avoir des enfants, donc en fait, où on prend souvent une pilule œstroprogestative, il y a la grossesse et la ménopause. En fait, le moment où on peut avoir des enfants, c'est un moment où on prend une contraception aujourd'hui hein, chez les femmes, et il y a beaucoup de moyens de contraception pendant quelques décennies, donc avant qu'on ait tout ce recul, en fait, parce que maintenant on a beaucoup de recul avec les contraceptions féminines, les modes de contraception. Il y a eu beaucoup de prescriptions de pilules œstroprogestatives, principalement contenant des œstrogènes de synthèse. Et en fait, ces pilules ont tendance à augmenter le risque vasculaire et notamment la formation de caillots sanguins. On s'en est aperçu. On s'en est aperçu au fil du temps, en fait, en faisant des études populationnelles. On a vu que finalement, le fait de prendre une pilule œstroprogestative, c'était un facteur de risque en tant que tel.
Et le risque est accru si on fume.
Effectivement, hein, la pilule et tabac, c'est un très mauvais cocktail. Hein. C'est quand, enfin moi, quand je vois une femme jeune qui fait un infarctus, souvent il y a ce cocktail, ce fameux cocktail, voilà. Donc effectivement, je pense que c'est important pour une femme d'avoir une contraception. Après, on peut discuter avec son gynécologue de voir quelle contraception envisager. Hein. Il y a plusieurs modes de contraception. Pourquoi pas associer monsieur aussi au type de contraception hein, pour voir un peu ce qui peut être la façon de se protéger le mieux. Et effectivement, quand on prend une pilule œstroprogestative, je pense qu'il y a un message à dire aux femmes, c'est ne fumez pas. C'est vraiment important.
Isabelle Delalleux, journaliste nutrition, forme, santé.
Oui.
Vous voulez réagir?
Non, je suis tout à fait d'accord avec le fait que souvent, enfin, pendant très longtemps, je pense que les gynécologues allaient se contenter de conseiller à leurs patientes de ne pas fumer si elles prenaient une pilule œstroprogestative, et qu'aujourd'hui on sait que c'est pas juste leur conseiller d'arrêter de fumer, c'est leur dire, surtout à partir d'un certain âge, si vous continuez de fumer, il y aura pas de pilule, on va trouver un autre moyen de contraception, parce qu'il y en a plusieurs, mais il faut pas combiner les deux. Et je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui bougent petit à petit, et que ça réunit en fait les cardiologues, mais aussi d'autres professions, comme justement effectivement les gynécos, et que c'est quand tout le monde sera vraiment concerné par ce sujet qu'on continuera de progresser vraiment, et d'informer les patientes avant tout.
Professeur Mounier-Veillé.
Moi, je voulais compléter, parce que maladie cardiovasculaire, ça comporte aussi le cerveau. Maladie cardio-cérébrovasculaire. Et il y a aussi une contre-indication formelle aux œstrogènes de synthèse, c'est la migraine. Quand on a des facteurs de risque, et la migraine avec aura, par exemple la migraine avec des petites mouches volantes devant les yeux, et on doit absolument interroger ces femmes, les informer. Je vois sur le bus du cœur des femmes, on a conseillé l'arrêt rapide de 40% des femmes qui avaient une contraception parce qu'elles étaient migraineuses. Donc c'est super important, pilule égale. On vérifie le tabac, mais on vérifie également l'hypertension et la migraine. Voilà, là on sauve des vies.
Une auditrice nous écrit « Je mange sainement, je ne fume pas, je bois très peu d'alcool, j'ai une activité physique régulière et je suis très mince, mais je suis perpétuellement stressée. Suis-je à risque de développer une maladie cardiovasculaire ?» Docteur Emmanuel Berthelot, quel est l'impact du stress sur le cœur et le cœur des femmes en particulier?
Alors,
et de quel stress parle-t-on? Du stress aigu, du stress chronique?
Il y a effectivement. Donc, on parle de facteurs de risque. Les maladies cardiovasculaires et en particulier le développement des plaques d'athérome, hein, donc de ces plaques qui vont être le lit de l'infarctus en général. Hein, il y a plusieurs façons de faire un infarctus, comme on le disait Claire, mais effectivement, souvent il y a des plaques. Eh bien, en fait, donc c'est l'association de facteurs de risque. Et nous, en fait, on calcule finalement des scores de risque en associant plusieurs facteurs de risque chez des personnes qui vont donc cumuler âge, tabagisme, diabète. Et en fait, on sait que plus on accumule de facteurs, plus on est à risque de faire un accident cardiovasculaire. Sachant que chez les femmes, il y a vraiment, encore une fois, une plus grande susceptibilité que chez les hommes. Nous, les femmes, nous sommes des sensibles, finalement, sur nos artères.
Concernant le stress. Parce qu'il y a aussi la charge mentale aussi qui pèse sur les femmes.
En fait, le stress, c'est des choses qui sont un peu difficiles à cerner parce qu'en fait, il y a peu de mesures objectives. Vous allez me dire, hein, en dépistage du diabète, c'est très facile. Dépistage de l'hypertension aussi. C'est une mesure, une mesure biométrique. Dépister l'effet du stress sur quelqu'un, c'est assez difficile, en fait. On pourrait le voir peut-être sur la variabilité de la fréquence cardiaque, on en parlait. Bon, il y a il y a peut-être d'autres mesures pour regarder l'effet du stress. Alors, ce qu'on sait, c'est qu'il y a deux types de stress. Il y a le stress chronique. Donc, c'est du stress, finalement, qui va agir en fait en lame de fond chez les gens à bas bruit. Donc c'est le fait d'avoir des difficultés financières, d'avoir des difficultés familiales, d'avoir une charge mentale. Ce qui parfois est le cas chez des femmes qui cumulent en fait plusieurs effectivement chez les femmes vulnérables, comme tu vas voir avec vos bus, Claire, en fait c'est très bien parce que finalement on s'aperçoit que dans des couches de la société parfois défavorisées, eh bien on a des femmes seules qui en plus ont des facteurs de risque, qui cumulent des difficultés socio-économiques importante et ce sont ces femmes qui sont vraiment sensibles et qui sont aussi soumises au stress. Donc il y a ce stress chronique pour lequel en fait on a des façons d'agir qui en fait sont surtout reprendre une activité physique quotidienne régulière 30 minutes par jour, pas forcément des choses très fortes mais vraiment reprendre une activité physique et puis jouer sur des façons de se relaxer. Comment on se relaxe? Eh bien, en fait, c'est le contact social, le contact avec les autres, le fait de rire. Je sais, Claire, tu aimes beaucoup ça, enfin cette image, mais c'est vrai, en fait. Il y a aussi, moi, j'insiste beaucoup sur la respiration. Moi, je vois plein de gens qui ne savent pas respirer. Je travaille beaucoup sur le symptôme d'essoufflement, en fait, et du coup, je fais beaucoup de séances de rééducation respiratoire chez les gens. Donc, il y a des petites applications, ou alors sur des vidéos sur la cohérence cardiaque.
Expliquez-nous en quelques mots.
Voilà. Alors, la cohérence cardiaque, c'est en fait faire des exercices respiratoires. Donc, on commence à respirer par le ventre, en fait, et on remplit ses poumons, donc du ventre jusqu'en haut des poumons, assez lentement, et puis on vide, on revide.
Pendant 5 secondes environ.
Voilà.
5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration. Pendant 5 minutes à peu
près. En fait, j'invite les gens à regarder donc une application qui s'appelle Respirolax,
qui est très bien.
Sur YouTube.
Ce sont les termes d'Avelar qui l'ont mis
gratuit.
Et c'est gratuit. Hein.
Voilà.
Respirolax.
C'est très très bien parce que en fait, vous allez pouvoir régler votre fréquence respiratoire. Parce qu'en fait, les gens ne respirent pas à la même fréquence. C'est pour ça que j'ai envie de dire, si on oblige une sorte de fréquence, finalement ça ne va pas correspondre à tout le monde et les gens vont se décourager. Ce qui est important, c'est de respirer à son rythme et de le faire tous les jours. Donc en fait, moi j'ai envie de dire l'hygiène de vie aujourd'hui, parce que je vois beaucoup de gens qui ne font pas beaucoup d'exercices, qui ne savent plus respirer. Je prends une douche, je prends soin de mon apparence extérieure et à l'intérieur de moi, en fait, je respire et je fais de l'exercice physique.
Et nous accueillons Annie. Bonjour Annie, bienvenue.
Oui.
Bonjour Annie.
Bonjour.
Bonjour. Vous appelez de Paris. Vous avez été victime d'un infarctus du myocarde, c'est ça? De la crise cardiaque.
Oui, c'est ça. Oui.
Expliquez-nous, racontez-nous.
Alors, j'étais en train de marcher avec une amie et j'étais très essoufflée et je ralentissais mon pas. C'était en vacances. Quand je suis rentrée, j'ai appelé mon médecin que je devais voir très prochainement, dans les deux jours qui suivent, et je lui demande si je dois faire une radio des poumons. Mmh. Et elle me dit tout de suite, mais non, pas du tout, il faut aller voir un cardiologue aujourd'hui. Elle a beaucoup insisté. Mmh. Et donc, j'avais la chance d'avoir connu un cardiologue précédemment. Donc, je suis allée le voir, et il m'a dit tout de suite, il m'a fait un examen, il m'a fait un infarctus. Je l'ai regardé ahuri, je ne le croyais pas. Je lui ai dit, mais montrez-moi ce que c'est. Et donc, il m'a fait une échographie, il m'a montré, il me dit, voyez là, ça bouge pas. Et normalement, ça devrait bouger, c'est votre cœur. Et donc voilà. Donc après ça, il m'a pas laissé rentrer chez moi, il m'a envoyé directement à l'hôpital pour faire un examen et faire le stèle.
Chez la femme, professeur Mounier-Veillé, on l'entend chez Annie, les signes de l'infarctus ne sont pas toujours les mêmes que chez les hommes?
Alors, la douleur thoracique telle qu'on la connaît, elle concerne quand même une femme sur deux. Hein, ça traduit une coronaire qui se bouche brutalement. Mais c'est vrai que dans un cas sur deux, ça va être des symptômes atypiques,
par exemple,
comme a décrit la dame. Un essoufflement à l'effort, une fatigabilité à l'effort. Ça peut être des douleurs qui sont au niveau du creux épigastrique, parce que c'est souvent le plancher du cœur ou la paroi latérale du cœur qui sont touchées. Et donc, ça peut donner des signes digestifs.
Parce des que nausées aussi.
Des nausées, voilà, nausées, vomissements, qu'on peut aussi voir chez les hommes, mais qui sont un peu plus fréquents chez les femmes. Et puis, elles vous décrivent parfois une douleur entre les omoplates et uniquement dans la mâchoire. Elles vous disent, j'étais oppressée avec une douleur dans la mâchoire, je me suis massé le sein pensant que ça allait passer. C'est typiquement ce qu'elles nous racontent. Et ce qui doit nous alerter, c'est la récurrence et le fait que ça dure. Ça, on ne doit pas attendre.
Docteur Emmanuel Berthelot, sur ces signes singuliers chez les femmes?
Oui,
un message à faire passer?
Alors, c'est les symptômes qui durent plusieurs minutes. Donc, c'est par exemple une douleur thoracique, c'est pas le petit pincement. Moi, je vois aussi beaucoup de gens stressés qui me disent « Ah, j'ai des pincements, mais alors ça dure quelques secondes et puis ça part ». Ça, c'est pas vraiment inquiétant. Le signe inquiétant, c'est le symptôme, donc la douleur thoracique, oppressive, inquiétante, l'essoufflement, la perte de connaissance, les palpitations qui vont durer plusieurs minutes et qui, en fait, ne vont pas céder quand on, par exemple, on va changer de position, on va s'allonger, ça ne passe pas. Et donc, il faut pas tarder.
Enfin, c'est une urgence absolue, il faut appeler le 112, absolument. Merci beaucoup, Annie. Je crois que vous faites de la prévention autour de vous, hein, après cet épisode malheureux, hein.
J'ai dit au téléphone tout à l'heure, c'est que toutes les femmes avec lesquelles j'ai affaire, je leur dis surtout, attends, ce n'est pas la douleur seulement, ça peut être aussi l'essoufflement et d'autres choses. Voilà.
Merci beaucoup Annie pour votre témoignage important ce matin. 10h43, il est l'heure de retrouver la chronique de notre médecin et romancier Baptiste Beaulieu.
France Inter, grand bien vous fasse.
Non, apparemment, je suis venu un peu tôt, quoi. Je venais une heure plus tard, j'étais peut-être en pleine santé, ça se trouve.
Et voilà, exactement.
Baptiste Beaulieu.
Oui, Ali, vous savez, la semaine dernière, je vous ai parlé de cette patiente adorable arrivée en France après avoir fui la guerre il y a plusieurs dizaines d'années et qui m'a amené des macroutes par milliers. Eh bien, Madame Saïd est revenue cette semaine avec un énorme couscous. Elle l'a mis dans un grand sac Ikea avec une soupière pour la viande et la sauce et une soupière pour la semoule et aussi une assiette pleine de cornes de gazelle.
Ben dis donc.
Alors, je lui explique que ces pâtisseries de la semaine dernière ont été partagées avec une famille de réfugiés ukrainiens hébergés par mes parents. Elle est touchée et je lui tends mon téléphone pour lui montrer une photo de mes parents et de la famille ukrainienne à table. Mais avant de regarder, elle détourne la tête et me demande « Oh là là, docteur, il y a des enfants sur la photo ?» Je dis « Oui, madame Saïd, ils ont deux enfants. Alors s'il y a des enfants, docteur, je vous préviens, je pleure. » Elle regarde la photo, elle pleure, dit une phrase en arabe que je comprends être une sorte de bénédiction pour les enfants. Puis elle ajoute cette phrase incroyable alors même qu'elle a la photo sous le nez, Ali. Ils sont combien les chrétiens? 15? Je sais pas pourquoi elle appelle les Ukrainiens les chrétiens, mais c'est drôle. Presque aussi drôle que de me demander s'ils sont 15 alors qu'elle a la photo entre les mains et qu'ils sont 4. Je lui réponds, non, ils sont 4, madame Chahid. Elle hoche la tête et ajoute, ah d'accord, c'est pas grave, je vais faire des macroutes pour 15 alors. Mais ça s'arrête pas là, Ali, parce que moi je me retrouve au cabinet médical avec un sac Ikea où s'entasse une soupière remplie de viande de sauce, une soupière pleine de semoule, mais je suis à vélo, Ali, je fais quoi avec ça? Je vais pas manger tout ça tout seul et autant que ça profite aux Ukrainiens, les chrétiens, comme dirait madame Chahid. Mais mes parents habitent à 30 minutes de Toulouse en voiture. Je vais pas faire 2 heures de route à vélo en portant une soupière remplie de boulettes et une soupière remplie de semoule. Et là, 2 ou 3 patients après madame Chahid, alors que ça commence à fleurer les boulettes au ras al hanout dans le cabinet, une de mes patientes que j'ai accompagnée dans sa guerre personnelle contre la maladie, me dit au détour d'une discussion qu'elle a déménagé récemment. On va l'appeler madame Sanchez. Un peu distrait, je lui demande où elle a déménagé. Et madame Sanchez me répond, une rue située à 200 mètres, promis, de chez mes parents, qui vivent pourtant dans la campagne toulousaine. Improbable. Je lui explique la situation. Madame Sanchez est venue en voiture. Elle est super contente de faire un détour pour nourrir tout ce petit monde. Elle repart donc avec le sac Ikea et les soupières. C'était comme si, Ali, tous les astres s'alignaient et que l'univers nous donnait un coup de pouce. N'empêche, ce sont mes parents qui ont dû trouver la situation étrange quand une femme inconnue a tapé à leur porte en plein milieu d'après-midi en pleine campagne pour leur dire « Bonjour, vous êtes bien monsieur et madame Beaulieu ?»« Oui, alors tenez, voilà du couscous et des boulettes. » Bon, Tout ça pour dire, soyons comme Madame Chaïd ou Madame Sanchez dans ce monde de brutes. Soyons gentils, parce que plus qu'une question d'honneur, c'est une question de mystère et de magie.
La chronique de Baptiste Beaulieu a podcasté sur l'appli France Inter et a partagé sur les réseaux sociaux. Nous avons survolé quelques pathologies cardiaques graves qui peuvent toucher les femmes. Mais comment prévenir et réduire les risques? Ce sera juste après Chien Noir qui interprète Lumière Bleue.
C'est juste une seule fois, c'est juste une nuit comme ça, c'est juste ton corps que je soulève, de l'or au coin des lèvres, c'est juste que j'y pense encore un peu, à nos ombres dans la lumière bleue. C'est juste ta peau contre la mienne, des mots qui me reviennent, je te vois loin la bouche, c'est juste nos lèvres qui se touchent, c'est juste que je cherche encore tes yeux, je cherche encore tes yeux.
Chien noir interprété Lumière bleue.
France Inter. Grand bien vous fasse. Ali Rebéi.
Et ce matin, mobilisation générale pour protéger la santé cardiovasculaire des femmes à tous les âges de la vie. Le standard vous est ouvert au 01 45 24 7000 et sur l'appli France Inter. Écoutons une note vocale déposée par Brigitte.
Bonjour, j'ai 64 ans. J'ai eu 2 Takotsubo en 10 ans et j'aimerais beaucoup que vous parliez de cette pathologie que certains généralistes ne connaissent pas du tout. Je vous remercie.
Alors qu'est-ce que ce syndrome des cœurs brisés, le Takotsubo, docteur Emmanuel Berthelot ou professeur Mounier-Veillé, qui veut l'expliquer à nos auditeurs qui ne connaîtraient pas?
Alors, le syndrome du cœur brisé, aussi appelé le syndrome du Takotsubo, ça touche 3000 personnes en France.
Surtout les femmes.
Et ça touche surtout les femmes, oui. Mmh. C'est essentiellement une pathologie féminine. Et on parlait du stress chronique tout à l'heure. Effectivement, on n'a pas abordé le stress aigu. En fait, en cas de stress aigu, on a souvent une décharge hormonale. Donc là, c'est des hormones de stress. Souvent, c'est l'adrénaline, hein, qui va en fait être déversée dans notre système nerveux autonome et qui va en fait générer une sorte de sidération. altération au niveau du cœur. Ça se voit surtout quand on a un stress aigu. Donc, par exemple, on apprend le décès de quelqu'un.
Ça peut être également une forte émotion positive aussi.
Oui, ça peut être. En fait, souvent, c'est une forte émotion, effectivement, qui provoque ça. Et ça se voit plutôt chez la femme de plus de 50 ans. C'est plutôt chez la femme un peu âgée. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que si on le prend tôt, les symptômes, c'est soit une douleur, soit un essoufflement brutal au repos. On parlait de symptômes. C'est surtout des symptômes au repos qui ne passent pas.
On parlait de l'infarctus tout à l'heure, petite parenthèse. L'essoufflement au repos doit t'inquiéter.
Effectivement, les symptômes, les symptômes dont je parlais, ce sont surtout des symptômes au repos. Le repos allongé, ça ne passe pas, ça dure plusieurs minutes. Et donc, dans le syndrome de Takotsubo, la bonne nouvelle, c'est que finalement, quand on prend en charge tôt cette maladie, en fait, on va pouvoir, avec les médicaments, améliorer le fonctionnement du cœur, parce qu'en fait, c'est une sorte de sidération du cœur. Le cœur est sidéré.
Et le Takotsubo désigne en japonais une petite amphore qui sert de piège à poulpe aux pêcheurs japonais, et sous le coup du Takotsubo, le ventricule gauche ressemble donc à cette petite amphore. Alors, comment se fait le diagnostic? Parce que ça peut ressembler à un infarctus du myocarde.
Ça mime en fait un infarctus à la fois sur les symptômes et à la fois sur la présentation. Nous, médecins, on regarde donc les symptômes, des prises de sang et des anomalies morphologiques. Donc, on a ces symptômes. L'élévation de la troponine, qui est en fait un marqueur de souffrance cardiaque, qui peut être élevé aussi dans l'infarctus. C'est pour ça qu'en fait, on parle ça mime un peu un infarctus, et donc une déformation du cœur en forme de poulpe qui est assez caractéristique. Et quand on fait une coronarographie, on n'a pas l'occlusion de l'artère, on a des artères qui ne sont pas occluses, donc en fait on voit que ce n'est pas un infarctus.
Un dernier mot sur le Takotsubo, pourquoi les femmes sont plus touchées, professeur Mounier-Veillé?
Alors pourquoi les femmes sont plus touchées? On dit qu'elles ont plus de récepteurs à ces fameuses hormones de stress au niveau de la paroi du myocarde. Et on parlait de stress positif, c'est par exemple une demande en mariage, un anniversaire surprise. C'est des bonnes nouvelles qui peuvent donner une forte émotion. Et puis ça peut être aussi pas mal de stress négatif. Voilà. Mais c'est une forme d'insuffisance cardiaque aiguë réversible. C'est ça qui est important.
C'est quoi l'insuffisance cardiaque en quelques mots?
Emmanuel, toi qui es la spécialiste,
Alors l'insuffisance cardiaque, c'est l'évolution de maladies cardiaques qui donc à un moment arrive à une fatigue du cœur. Donc c'est l'insuffisance cardiaque, c'est une insuffisance du cœur à pomper suffisamment de sang pour alimenter les organes en oxygène et en nutriments. Donc c'est en général c'est un défaut soit de pompe, de force de pompe, ou alors c'est un défaut de relaxation du cœur. Il y a deux mécanismes. Et en fait donc les symptômes, c'est essoufflement, prise de poids, œdème, fatigue. On a fait un petit peu un acronyme pour simplifier un peu, pour que les gens se rappellent un petit peu des symptômes. Et c'est surtout l'essoufflement, encore une fois, l'essoufflement, symptôme cardiaque un peu négligé par rapport à la douleur, mais enfin, un essoufflement, ça peut venir du cœur. Il y a une élévation d'une hormone aussi qui s'appelle NT-proBNP qui donne en fait un indice sur la prise de sang, et en anomalie morphologique au niveau de l'échographie de l'IRM, on voit en fait une déformation du cœur, soit une dilatation, soit une restriction.
Et les femmes sont autant touchées que les hommes?
Alors effectivement, il y a autant la prévalence de l'insuffisance cardiaque, c'est la même, et c'est la première cause en fait de décès cardiovasculaires, c'est l'insuffisance cardiaque, parce que c'est finalement l'évolution de toutes les maladies cardiaques.
Heureusement qu'il existe des traitements médicamenteux.
Alors oui, on a fait beaucoup de progrès.
Bon, venons-en à l'hygiène diétético sportive,
de vie.
Isabelle Delalleux, vous publiez J'entretiens, je protège mon cœur. Quelles sont les règles absolues si on veut protéger son cœur? L'alimentation d'abord.
On a parlé des facteurs de risque, donc finalement les facteurs de risque, enfin une fois qu'on les connaît, il est facile de savoir quelle attitude prendre. L'alimentation, évidemment, ça en fait partie.
Quelle alimentation?
Idéalement l'alimentation méditerranéenne.
C'est-à-dire
plus de fruits, plus de légumes, moins de mauvaises graisses, moins de sucre. En tout cas des viandes plus maigres, moins de sel, moins de sucre, et surtout arrêter toute l'alimentation industrielle et recommencer à cuisiner à la maison. C'est vraiment une base, mais ça fonctionne. Et le régime méditerranéen, enfin on l'appelle régime, il a prouvé ses vertus sur le cœur en prévention et après maladie.
Cuisiner maison en ayant la main moins lourde sur le sel.
Oui. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une tendance à la facilité. On fait très peu d'exercice, tout vient à nous en fait. Hein. On a développé plein de systèmes pour être le moins actif possible.
Avec la livraison des repas à domicile, l'alimentation ultra transformée dans les supermarchés, trop salée, avec trop d'additifs.
C'est une tendance actuelle et en fait c'est malheureusement c'est facile pour la plupart des gens, mais malheureusement c'est très mauvais pour le cœur. À la fois parce qu'on ne sort plus pour aller chercher son repas et aussi parce qu'on ne cuisine plus à la maison. Et en fait, on parle du régime méditerranéen, c'est vrai que c'est l'idéal, mais ne serait-ce que éviter les plats préparés qui sont trop riches en sel et en sucre, puisqu'en fait, ils ont ajouté des additifs pour rendre les gens accros à ces aliments, c'est déjà un bon pas en avant.
Et quelle est la place du sport, de l'activité physique? Et quelle activité physique?
J'ai envie de dire un peu n'importe quelle activité physique, du moment qu'on a une activité physique, parce que les chiffres...
Le squash.
Pourquoi pas si on a envie vraiment?
Non mais la marche rapide.
Ce qui est de plus simple, ce qui ne coûte rien, ce qu'on peut faire facilement, c'est-à-dire marcher tous les jours. Mais par contre, on sait très bien que les femmes notamment font de moins en moins de sport, particulièrement après 30-35 ans, quand elles ont une charge de famille et que ça dure et que ça leur porte fortement préjudice.
Professeur Mounier-Veillat, quelle fréquence le sport, que ce soit la course à pied, la marche rapide, la natation, la corde à sauter, pourquoi pas, à quelle fréquence?
Alors c'est d'abord 30 minutes d'activité physique par jour. Alors nous tannent avec les 10 000 pas par jour, mais c'est en fait une application japonaise qui, la traduction voulait dire 10 000 pas.
C'était
mais 4
pour les JO
pas,
de Tokyo en 68. Ouais.
Voilà, exactement, donc 4 000 pas par jour ça suffit, c'est prendre les escaliers, donc avoir un sens interdit sur les escaliers, c'est se lever toutes les deux heures quand on est en position assise, et ensuite effectivement 45 minutes d'activité plus intensive où on transpire par semaine, mais il faut que ça soit aussi un sport plaisir, c'est-à-dire que si on n'aime pas ce sport-là, cette activité, on ne la fera pas.
Et puis ne pas oublier, la gestion du stress est très important. Je rappelle cette appli gratuite développée par les Thermes d'Avelar qui s'appelle Respire Relax et qui peut aider dans cette...
Et la sieste.
Et la sieste aussi.
Faire une petite sieste d'un quart d'heure, c'est sans dormir, sans écran, sans téléphone. C'est très important parce que ça fait baisser les taux d'hormones de stress.
La sexualité aussi.
La sexualité, avoir une sexualité épanouie. On dit que deux à trois rapports par semaine chez un patient qui a fait un infarctus, ça diminue de 25% le risque de récidive. Donc ça fait partie des tabous. Mais voilà, c'est une activité physique qui est recommandée par l'Organisation Mondiale de la Santé.
Mais j'ajouterais sur la gestion du stress que le fait de faire une activité physique, c'est très bon pour gérer son stress. C'est très important en fait de sortir. En fait, le sport, j'aurais envie de dire, si on aurait inventé un médicament qui fait aussi bien que le sport...
C'est les co-médicaments.
C'est pas possible. Donc en fait, voilà, de l'exercice physique tous les jours, ça déstresse, ça permet de penser à autre chose. C'est la santé mentale et cardiovasculaire.
N'hésitez pas à consulter le site Agir pour le cœur des femmes. Merci à professeur Mounier-Veillé. Mon combat pour le cœur des femmes est publié chez Marabout. Docteur Emmanuel Berthelot, 3000 milliards de battements, les secrets de notre cœur est publié aux éditions du Rocher. Merci Isabelle Delalleu. J'entretiens et je protège mon cœur est publié chez Solar. Et le prochain bus, il passe où?
Alors le prochain bus est à Mulhouse les 1er et 3 juin. Puis Sifour-les-Plages les 7 et 9 juin, Le Havre 13-14 septembre, Lille 21-23 septembre, je vais vite, Paris 28-30 septembre, Montpellier 12-14 octobre, Marseille...
Et il y aura tout sur votre site 12, Agir pour le cœur
18-20,
des femmes.
Voilà. Donc on continue,
beaucoup.
C'est 20 villes. Au revoir. Merci
au revoir.
Beaucoup.
Merci, au revoir.